Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Les peuples Kamaraygal de la nation Guringai ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre programme en français sur SBS Radio. Il est 13h à Sydney, Melbourne et Canberra, midi à Brisbane. Avec vous aujourd'hui, Léo Roussel, j'aurai le plaisir de vous accompagner pendant une heure en ce premier jour du mois d'avril. Au programme de cette émission, vous retrouverez votre journal sans poisson d'avril et sans fausses informations, suivi de notre page dédiée à l'actualité sportive. Comme chaque mardi, nous ferons aussi un point sur l'actualité politique de la semaine. On parlera bien sûr des élections fédérales australiennes. En deuxième partie de programme, on partira à la découverte de la FACET, le centre franco-australien de transition énergétique pour l'Indo-Pacifique. La co-directrice de cette initiative s'est entretenue avec nos équipes. En fin d'émission, on vous proposera un reportage de notre radio partenaire Radio France Internationale. Nous sommes le 1er avril, il est 13h01 sur SBS Radio. Vous êtes bien avec le programme en français. Tout de suite, c'est l'heure de votre journal. À la une de l'actualité de ce mardi 1er avril 2025, Marine Le Pen condamnée à 5 ans d'inéligibilité en France pour détournement de fonds publics. La chef de file du parti d'extrême droite Rassemblement National a été reconnue coupable dans l'affaire des assistants parlementaires qui visaient son parti. Elle annonce vouloir faire appel pour pouvoir briguer la présidence du pays en 2027. Les chances de retrouver des survivants se réduisent en Birmanie et en Thaïlande après le violent tremblement de terre de vendredi. Le bilan provisoire fait état de plus de 2000 morts en Birmanie. Deux Français font partie des victimes. Et puis en Australie, la campagne pour les élections législatives fédérales se poursuit. Le Premier ministre Anthony Albanese est à Adélaïde ce mardi pour multiplier les annonces dans le secteur de la santé. Quatre ans de prison, dont deux enfermes sous bracelet électronique, 100 000 euros d'amende, mais surtout 5 ans d'inéligibilité avec application immédiate. Le tribunal judiciaire de Paris a mis fin hier aux espoirs présidentiels de Marine Le Pen, figure de proue de l'extrême droite française. La présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée nationale a été reconnue coupable de détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants d'eurodéputés du Front National. Les juges ont estimé que Marine Le Pen a joué un rôle central dans la mise en place d'un système de rémunération qui a vu des fonds de l'Union européenne attribués à des assistants d'eurodéputés qui travaillaient en réalité pour le parti d'extrême droite à d'autres postes. 25 personnes ont été condamnées au total dans cette affaire, parmi lesquelles 9 ex-eurodéputés et 12 ex-assistants parlementaires. Marine Le Pen a réagi à sa condamnation à la télévision française sur TF1. Elle dénonce une décision politique visant à l'éliminer de l'élection présidentielle de 2027. Elle a annoncé qu'elle fera appel de la décision.
Je ne vais pas me laisser éliminer ainsi. Je vais mener les voies de recours que je peux. Il y a un petit chemin, il est certes étroit, mais il existe. Je vais effectivement demander, de la manière la plus claire qui soit, que la décision d'appel intervienne, me permettant d'envisager une candidature à l'élection présidentielle.
Et la condamnation de Marine Le Pen a fait réagir en France comme à l'étranger. Les leaders d'extrême droite d'Europe ont dénoncé une attaque contre la démocratie quand Elon Musk a lui évoqué un abus du système judiciaire. Les précisions d'Anastasia Becchio pour Radio France Internationale.
Le slogan « Je suis Marine » lancé par le Premier ministre hongrois Viktor Orban a été repris par Milorad Dodik. Les tribunaux sont devenus les outils de ceux qui craignent la démocratie, dénonce le chef politique des Serbes de Bosnie, lui-même sous le coup d'un mandat d'arrêt pour attaque à l'ordre constitutionnel. En Italie, Matteo Salvini, le vice-premier ministre, voit dans cette condamnation une déclaration de guerre de Bruxelles. Les peines n'avaient pas encore été prononcées à Paris qu'à Moscou, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov pointait une violation des normes démocratiques lors d'un processus politique, tout en précisant que la Russie ne voulait pas s'ingérer dans les affaires intérieures de la France. Le chef du parti d'extrême droite à la tête de la coalition néerlandaise, Geert Wilders, déclare être choqué par cette condamnation qu'il juge incroyablement sévère. Enfin, outre-Atlantique, Elon Musk dénonce un abus du système judiciaire pour emprisonner les opposants, mettant en garde contre un retour de bâton.
Les chances de retrouver des survivants s'amenuisent en Birmanie et en Thaïlande. 4 jours après le tremblement de terre de magnitude 7,7 qui a touché cette région d'Asie du Sud-Est, les recherches se poursuivent. Selon un dernier bilan, au moins 2056 personnes sont mortes dans le séisme en Birmanie, tandis qu'au moins 18 autres ont perdu la vie en Thaïlande. Lundi, le ministère français des Affaires étrangères a annoncé la mort de 2 ressortissants en Birmanie. La junte birmane a décrété une semaine de deuil national et va rendre hommage aux nombreuses victimes lors d'une minute de silence ce mardi. Dans le reste de l'actualité internationale, le président russe Vladimir Poutine se dit ouvert à tout contact avec son homologue américain Donald Trump au sujet de discussions sur la paix en Ukraine. Des déclarations qui interviennent après les propos de Donald Trump qui s'était dit très en colère contre le président russe après ses propos sur la mise en place d'une administration transitoire en Ukraine sans son président actuel Volodymyr Zelensky. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que Vladimir Poutine restait ouvert à un appel téléphonique avec Trump, précisant qu'aucun coup de fil n'a pour l'instant été programmé.
We continue working with the US side, first of all, on building our relations, which were badly damaged during the previous administration. We are also working on the implementation of some ideas related to the Ukrainian settlement. This work is underway. But so far, there are no specifics that we could or must inform you about.
Мы должны были бы вам сообщить. Нет.
En Australie, les élections législatives, c'est dans un mois. Le Premier ministre travailliste Anthony Albanese, qui brigue un deuxième mandat à la tête du pays, était à Adélaïde ce matin. Il s'est engagé à verser 150 millions de dollars pour financer un nouveau centre de santé à l'université Flinders d'Adélaïde. Une nouvelle annonce pour le secteur de la santé de la part du Premier ministre. Son parti met en effet l'accent sur son programme en matière de santé au cours de cette première semaine de campagne. Le financement de cet établissement de santé sera complété par l'université qui construira une nouvelle clinique capable d'accueillir 10 000 patients par an et de former 1 300 professionnels. On écoute Anthony Albanese.
We're building a better future by training more people for these facilities, more than 490 nurses, 250 social workers, 128 occupational therapists and speech pathologists, more than 100 paramedics, 60 physios, more than 50 midwives, 24 clinical psychologists, 180 other allied health professionals.
Les autorités chinoises déclarent que l'Australie n'a aucune raison d'être méfiante à l'égard du navire de recherche chinois qui a contourné la côte sud du pays hier. Celui-ci a été détecté au large de l'Australie méridionale et aurait pénétré dans la zone économique exclusive de l'Australie. Le porte-parole du ministère chinois déclare que ce trajet du navire fait partie d'activités maritimes normales, ajoutant que la Chine a respecté le droit international. Le Premier ministre Anthony Albanese a réagi en déclarant qu'il aurait préféré que le navire ne soit pas là. Des leaders aborigènes ont déposé une plainte auprès du Comité des Nations Unies pour discrimination raciale. Ils appellent à une action urgente pour remédier à ce qu'ils estiment être de graves violations des droits de l'homme, des enfants aborigènes et insulaires du détroit de Torres. La plainte a été déposée par la professeure associée Hannah McGlade avec le soutien du Human Rights Law Center. Elle affirme que les lois draconiennes des États et des territoires australiens alimentent une crise d'incarcération de masse. Elle appelle à un changement de politique pour remédier à l'utilisation notamment de cagoules, de l'isolement cellulaire et de la fouille à nu des enfants. La professeure accuse également les gouvernements fédéraux de ne pas avoir réagi à la commission royale de 1991 sur les décès d'aborigènes en détention. Cette commission avait mis au jour les problèmes systémiques qui avaient contribué à la mort de 99 aborigènes dans les prisons et les commissariats de police du pays. De nouvelles pluies abondantes sont attendues dans l'ouest du Queensland et pourraient aggraver les inondations déjà dévastatrices en cours dans la région. Des crues importantes sont en cours après des précipitations records et de nombreux habitants ont été appelés à évacuer. Les inondations sont considérées comme les pires depuis plus de 50 ans et elles pourraient durer des semaines. Le bureau de météorologie avertit que le niveau des eaux pourrait encore augmenter. On écoute le météorologue Angus Hines du bureau de météorologie australien.
Flooding continues to be extremely significant for central and western Queensland, and it will be for days and weeks to come. Major flooding continues to occur along rivers throughout the central, west and southwest forecast districts, as well as parts of the northwest and parts of the Maranoa and Warrego in southern Queensland. Some of the floodwaters are even moving across state borders now into the eastern Northern Territory and northern parts of New South Wales.
Un point sur la météo avant de refermer ce journal. Un temps plutôt nuageux attendu à Sydney ce mardi avec 24 degrés attendus, alors que le ciel sera dégagé du côté de Canberra sous 23 degrés. Des nuages aussi à Melbourne aujourd'hui où le thermomètre atteindra 21 degrés. Il fera beau et chaud à Perth et Adélaïde avec des températures qui atteindront respectivement 32 et 36 degrés. Enfin, si vous êtes dans le nord de l'Australie, vous risquez d'avoir de la pluie ce mardi. Ce sera le cas à Darwin malgré les 31 degrés attendus, à Cairns et Brisbane où il fera 27 degrés et où quelques averses devraient ponctuer la journée. Tout de suite, c'est l'heure du journal des sports avec Christophe Mallet.
Journal des sports et on débute avec du football et les résultats de la 27e journée du championnat de France de Ligue 1. Donc avec Strasbourg qui bat Lyon sur le score de 4-2, Reims qui bat Marseille sur le score de 3-1, le Paris Saint-Germain qui bat Saint-Étienne sur le score de 6-1, de Paris Saint-Germain qui aurait pu être champion mais qui devra attendre. Encore une fois, on écoute le commentaire du joueur parisien Gonzalo Ramos.
C'est un objectif et si on est champion aujourd'hui, c'est magnifique. On ne pense pas beaucoup de le record et tout, mais si on peut faire ça, c'est incroyable. On ne parle pas de ça, on fait la recoupe et on y va à la maison.
Gonzalo Ramos, donc après cette victoire 6-1 du Paris Saint-Germain face à Saint-Etienne. Les autres résultats, Monaco bat Nice sur le score de 2-1. Auxerre pratiquement condamne Montpellier à la relégation en battant donc le club 1-0. Brest bat Toulouse au score de 4-2. Rennes bat Angers sur le score de 3-0. Le Havre bat Nantes sur le score de 3-2. Et le LOSC Lille qui revient de nulle part, victoire 1-0. Contre Lens, une victoire compliquée, mais une victoire tout de même. Antoine Grenier.
Une victoire dans le derby du Nord, succès 1-0 sur une bourde du gardien lensois, Mathieu Ryan, parfaitement exploité par Mathias Fernandez Pardo, tout premier but au LOSC pour le Belge. Les Lensois ont ensuite poussé pour essayer de recoller au score, mais Benjamin André et ses partenaires ont réussi à rester devant, gagner, et c'est bien le principal pour le capitaine lillois.
C'était un peu mou, un peu... Ça manquait un peu d'intensité, mais bon, après nous, on va pas faire la fine bouche. Hein. Voilà, on était plus dans la gestion, mais ça nous va pas bien, on sait pas faire ça. Et nous, il faut continuer à avancer, sortir sur le porteur, récupérer les ballons hauts, avoir la possession haute. On a perdu trop de ballons quand on a réussi à le gagner dans un deuxième temps, et on était toujours dans le récupérer, défendre, récupérer. Mais bon, voilà, c'était important de gagner dans le derby. On a vu les résultats de ce week-end, il fallait recoller au plomb de tête, et je pense que c'est fait, voilà.
Benjamin André, donc le joueur du LOSC Lille qui revient justement dans la Coupe européenne. Au classement, le Paris Saint-Germain est en tête avec 71 points. Monaco est deuxième avec 50 points. Marseille est troisième, 49 points. Nice est quatrième avec 47 points. Ex-aequo avec Lille, le LOSC donc, qui revient dans la course européenne avec 47 points également. En bas de classement, le Havre est 16e avec 24 points. Saint-Étienne 17e avec 20 points. Et Montpellier qui ferme la marche. Lanterne rouge est donc premier relégué en Ligue 2. Montpellier avec 15 points. On continue sur le football avec un lien sur la Ligue 1 et le joueur international de la RDC, donc de la République démocratique du Congo, Naliel Moukao, qui a été mis sur le banc pour le match contre la Mauritanie. Et coup de colère du joueur, il a effacé toutes ses photos avec ses maillots où il représente le pays, donc représente la RDC. Les explications de Pascal Mandala.
Non, Ngalael Moukaou n'a pas claqué la porte de la sélection de RDC. Le milieu de terrain de 20 ans l'a affirmé en précisant qu'il n'avait pas supprimé sur Instagram ses photos en maillot des léopards, mais qu'il les avait simplement archivées. Le Lillois reconnaissant malgré tout sa frustration de ne pas avoir été aligné lors du match face à la Mauritanie. Une attitude qui interpelle l'ancien journaliste sportif Patrick Kassondé.
Parce que c'est la première fois qu'il réagit comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est certainement aussi ce qu'il s'était dit avec l'entraîneur au départ, quand il l'appelait pour jouer pour le compte de la RDC.
Frustration oui, mais de la patience, c'est ça que lui recommande l'ex-international congolais Guiloussa Dissou.
Et qu'on voit beaucoup de talents, et puis il y a beaucoup de joueurs qui sont vraiment pour le moment en forme. Et puis il faut être toujours patient, il y aura toujours votre tour pour jouer dans l'équipe nationale.
Même approche pour Deo Kamangou, un supporter des Léopards qui voit en Ngalael Moukaou une légende du futur.
Il a encore de belles années devant lui, il va faire de bonnes choses pour la sélection, mais il doit être patient. Il doit comprendre que quand tu reviens dans le pays jouer, c'est l'amour qui doit te porter.
Si beaucoup reprochent à Moukaou de s'être emporté, d'autres disent comprendre parfaitement sa frustration. Avançant même que les milieux de terrain alignés par Sébastien Desabre n'avaient guère brillé malgré les deux victoires décrochées.
Voilà les explications de Pascal Mandala pour RFI. Direction l'Italie avec la Serie A et l'Atalanta de Bergame qui décroche de la tête de la Serie A. Et c'est important puisque Bergame aurait pu vraiment jouer et jouait vraiment la victoire. Mais avec une défaite 1-0 contre la Fiorentina, l'Atalanta Bergame est maintenant troisième du classement du championnat italien. Et surtout est à 9 longueurs du leader, l'Inter, et à 8 points de Napoli qui est juste devant. Donc l'Atalanta Bergame sera compliqué pour finir dans le duo de tête. Maintenant, il reste à rester sur le podium et c'est l'objectif de Gian Piero Gasperini, l'entraîneur de l'Atalanta
Bergame.
Oui, c'est dommage. C'était un match difficile, surtout après ce but rocambolesque que nous avons encaissé. Nous n'avions pas l'énergie aujourd'hui pour vraiment combattre. Maintenant, il faut regarder devant. Nous sommes toujours dans une position privilégiée. Sur les 8 derniers matchs, nous en avons 5 à domicile. C'est un championnat difficile où les écarts sont très faibles. Nous ne sommes pas loin de toutes les autres équipes. Être encore en 3e position après 2 défaites est un énorme mérite. Maintenant, nous devons avoir une grosse motivation, un environnement très solide pour atteindre un objectif qui serait vraiment pour l'Atalanta un exploit fantastique.
Gian Piero Gasperini, donc pour l'Atalanta Bergame. Allez, c'est tout pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS. À tout de suite.
Allez, comme chaque mardi, on s'intéresse à l'actualité politique en Australie. Et forcément, cette semaine, Patricia Meunier se penche sur l'annonce de la date des élections fédérales australiennes, annoncée pour le 3 mai prochain.
SBS French. Mardi, jeudi, samedi et dimanche, à 13h ou à tout moment, en ligne.
Alors, vous le savez sûrement, les Australiens se rendront aux urnes pour élire le gouvernement fédéral. Ce sera le 3 mai 2025. L'élection s'annonce serrée et les sondages d'opinion prévoient une faible marge entre les deux principaux partis du pays. Les questions liées au coût de la vie vont dominer la campagne électorale. Les explications de Patricia Meunier.
Les Australiens s'y attendaient. Eh bien, c'est chose faite. Il y aura une élection fédérale le 3 mai prochain. On écoute le Premier ministre Anthony Albanese.
This morning I visited the Governor General and Her Excellency has accepted my advice that an election be held on Saturday 3rd of May 2025.
Le Premier ministre a rendu visite au gouverneur général et lui a demandé de dissoudre le Parlement. Le processus est ainsi lancé. Les activités normales du Parlement vont donc être suspendues provisoirement. En effet, les députés ne pourront pas voter au Parlement et pourront donc se concentrer sur leur campagne politique. Kat Gleeson, la commissaire adjointe aux élections de la Commission électorale australienne, l'AEC, explique que tout commence par la liste actualisée des personnes autorisées à voter.
So now that the election's been called, the AEC moves into our key election activities. So the first significant milestone is the close of rolls. So we encourage all Australians to make sure that their enrollment details are up to date.
Le gouvernement va donc fonctionner différemment jusqu'aux élections du mois de mai. Pendant cette période de transition, le Premier ministre n'a plus le contrôle absolu de la situation dans le pays. Si des décisions importantes doivent être prises, comme en cas de pandémie ou de guerre, il doit consulter le chef de l'opposition. Le professeur Orr rappelle que les députés parlementaires locaux restent présents pour les petites choses à régler.
They're still being paid and they will still have their staffers, but they're still there to handle what we call constituency or like ombudsman style complaints and requests, so they can still help you with your issues with social security and so on. But they are what we call administrative issues. They are small issues involving individuals or companies. It's not big decisions.
La campagne électorale a déjà bien commencé. Chaque candidat fait des annonces et multiplie les visites pour convaincre. Il s'agit de s'assurer le plus de votes possible. Anthony Albanese a commencé à Brisbane, dans le fief de son rival, Peter Dutton, vendredi après-midi. Il a visité une clinique de soins d'urgence Medicare. Ce n'est pas un hasard. La santé est perçue comme un atout pour le parti travailliste. Le leader de l'opposition a très vite réagi. Il a promis 500 millions de dollars supplémentaires pour la santé mentale et de travailler pour une réduction drastique du prix des médicaments sur la liste PBS. Les chefs de parti vont parcourir l'Australie pour se présenter comme étant le meilleur choix pour diriger le pays. L'actualité sera bien remplie avec les actions de chaque parti qui voudra gagner les voix des électeurs.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Il est 13h33, vous écoutez le programme en français. Dans un instant, on part à la découverte de la FACET, le Centre franco-australien de transition énergétique pour l'Indo-Pacifique, une initiative lancée en 2023 pour accélérer les projets collaboratifs et innovants dans le domaine de la transition énergétique. On marque une très courte pause et on revient très vite sur SBS Radio.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Aujourd'hui, on va parler de transition énergétique et du rôle de la France et des relations avec l'Australie avec Prune Bokobza. Bonjour Prune.
Bonjour Christophe.
C'est un sujet intéressant et la France a son mot à dire dans cette discussion au niveau de la transition énergétique, bien au niveau de la technologie. Mais aujourd'hui, on va parler des relations avec avec l'Australie et votre rôle au sein de la FACET. Expliquez-nous ce qu'est la FACET et cette feuille de route qui est somme toute assez récente dans les relations australiennes et franco-australiennes.
Oui, tout à fait. Donc la feuille de route, elle est récente et la FACET encore plus. Donc c'est une initiative conjointe qui a été lancée en décembre 2023 entre la France et l'Australie pour accélérer la transition énergétique en se basant sur l'expertise de nos deux pays. Donc ça a été lancé dans le cadre de la feuille de route bilatérale sous le pilier donc de résilience climatique avec la vocation de créer vraiment un bras qui est très opérationnel et qui va aller chercher des projets concrets entre les Français et les Australiens innovants sur différents sujets de la transition énergétique pour réussir à co-innover ensemble.
Si on pense la France et l'Australie, c'est les mêmes problèmes parce que c'est la planète, mais est-ce que c'est les mêmes problématiques?
Exactement, c'est les mêmes problèmes et c'est pas les mêmes problématiques. Donc la France et l'Australie ont pas un profil énergétique qui est similaire.
Non, pas du tout. Enfin, il y a qu'à aller dehors, on peut le voir.
Hein. Exactement. Ici, il y a de l'espace. Ici, il y a des ressources. Donc, Lucky Country, hein, je pense que tout le monde, tout le monde en a bien entendu parler. Après, on sait que c'est Lucky Country au niveau de toutes les énergies fossiles. On sait un petit peu moins que c'est Lucky Country aussi sur tout ce qui est renouvelable. Donc, il y a l'espace pour mettre les fermes solaires, il y a l'espace pour les fermes éoliennes, et il y a un potentiel énorme aussi sur de l'éolien en mer, et puis un accès aux ressources ici dont on rêverait en France forcément. À l'inverse, nous en France, on a beaucoup d'expertise technologique, mais un territoire qui ne nous permet pas de faire des projets à l'échelle de ce qu'on peut faire en Australie. Et on a tout intérêt, avec des stratégies qui sont quand même concordantes, un pays qui est allié et qui a la même vision que nous en Indo-Pacifique, à travailler ensemble pour voir ce qu'on peut sortir.
Emmanuel Macron a parlé de cet axe Indo-Pacifique, cette nouvelle route de la soie, etc. Sans revenir là-dessus, c'est vraiment dans la lignée de ce qui avait été annoncé dans le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Cette feuille de route, elle est importante parce que c'est important de s'y coller, j'y pense, mais elle est importante parce qu'elle vous donne une ligne directrice. On progresse comment en dehors de cette feuille de route? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez un axe de liberté, et ce qui permet aux entreprises innovantes françaises de pouvoir un peu changer la donne aujourd'hui en Australie ici?
Donc nous, on est vraiment dans la ligne de cette feuille de route, mais comme je disais, ce qu'on attend de nous, c'est d'être très concret. C'est la transition énergétique, c'est pas dans 10 ans qu'il faut la faire, c'est aujourd'hui, c'était hier, c'était avant-hier même. Donc on avance très vite, ça fait à peine un an qu'on a été créé. On a déjà investi donc 2,5 millions et généré 1 million de co-investissement de la part de nos partenaires. On vise d'être à 50-50 cette année et d'être complètement indépendant dans 4 ans. Donc effectivement, on est vraiment au contact à la fois des entreprises, des centres de recherche, des universités et aussi des entrepreneurs et des start-up pour trouver les meilleures idées sur le territoire et les monter ensemble.
Les clés, c'est quoi? Parce qu'on parle d'éolien, de solaire. Pour vous, c'est global? C'est un tout?
Tout à fait. Donc, c'est un tout. Après, nous, on est vraiment sur du développement technologique. Donc, ce qu'on va regarder comme sujet, ça va aller donc de l'hydrogène au stockage, au réseau électrique du futur, minéraux critiques, et puis une thématique qui prend beaucoup d'ampleur en Australie, tout ce qui va être nouveau carburant également.
Le nucléaire. Sans le nommer, non?
Ou pas? Non, justement, alors nous...
Parlons-en.
Parlons-en. Donc,
en anglais, on dit « elephant in the room », c'est ça?
Exactement. Je suis acquise à la cause. Il faut savoir qu'avant l'Australie, j'ai passé 5 ans au Japon pour travailler pour le CEA sur la politique nucléaire entre la France et le Japon. Mais la France et le Japon ont un profil énergétique qui est le même. Ce n'est pas le cas de l'Australie. Et donc, le nucléaire pour l'Australie, c'est une possibilité, mais ce n'est pas ça que Facet va aller regarder. Parce que Facet, on est déjà là pour agir sur la collaboration dans tous les projets d'énergie renouvelable. Il y a déjà beaucoup à faire dans le solaire, il y a beaucoup à faire dans l'hydrogène, il y a beaucoup à faire dans l'éolien, les réseaux électriques. Et donc, même si Facet s'est porté en France par le centre de recherche CEA, on va vraiment se reposer en fait sur leurs compétences dans ces autres énergies alternatives pour faire émerger des projets qui ont la capacité d'être déjà sur le marché. Le nucléaire, c'est un peu loin pour l'Australie aujourd'hui.
Je voulais justement qu'on en parle de ça, parce que merci d'avoir accordé quelques mots là-dessus, parce que ça devient un sujet politique en Australie. Et comme on sait que l'Australie est tellement bipartisane, c'est un sujet pour un côté. Et c'est vrai que c'est important aussi de dire que même si la France a un succès nucléaire, aujourd'hui, vous ne participez pas à ça, pas à ces discussions, donc il n'y a pas de prise politique et pas de prise de position de ce côté-là.
De la part de Facet, on essaye de ne pas confondre les deux pour ne pas s'adresser aux mêmes acteurs sur deux sujets qui sont différents, même si notre ligne, c'est de dire qu'en France, on a acquis une expertise grâce à la filière nucléaire, notamment dans l'hydrogène. C'est, la filière nucléaire, elle utilise énormément d'hydrogène. On a un cadre de sûreté et de sécurité par rapport à ce domaine qui est très fort grâce à ça. Et donc, on n'hésite pas à utiliser cette expertise. Mais aujourd'hui, on est sur d'autres sujets.
L'Australie aujourd'hui, quand vous voyez l'Australie où on en est aujourd'hui, est-ce que le pays a pris un peu de retard parce qu'elle est restée trop longtemps dans les minerais, dans l'extraction de minerais, dans la vente de minerais, par rapport aux énergies renouvelables que vous prenez aujourd'hui?
L'Australie...
Ce serait méchant de dire ça ou pas?
Non, on est français, on est exigeant, on va dire.
On a l'esprit critique.
Voilà, exactement. Non, mais c'est très bien d'être exigeant, c'est important, c'est exactement ce qu'il faut faire face à l'urgence climatique. L'Australie, si on regarde il y a 10 ans, c'était quand même 90% de son mix qui était fossile. Aujourd'hui, on est à plus de 40% d'énergie renouvelable. Donc, on ne va pas dire qu'il n'y a pas d'effort qui est fait, il y a un vrai effort qui est fait. Maintenant... il y a toute une industrie à construire. Et donc, en fait, le travail, il est massif avec des problématiques qui sont propres au pays. La première à laquelle je pense, c'est notamment un manque de main-d'œuvre. Et donc, une difficulté aujourd'hui déjà à opérer des projets qui sont existants. Alors, maintenant, quand on parle de projets innovants, il faut encore plus de main-d'œuvre, mais surtout, il faut une main-d'œuvre qui est qualifiée pour ces nouveaux projets. Et ça veut dire des filières à monter. Et c'est quelque chose qu'on va regarder hein, aussi avec Facette. Et c'est pour ça qu'on a des universités qui vont opérer le centre. C'est parce que derrière, si les projets qu'on veut monter, il n'y a personne qui est capable de gérer la maintenance des panneaux solaires ou éoliennes, en fait, on va se retrouver bloqué mécaniquement dans la bonne conduite de ces projets.
Et la France dans tout ça, qu'est-ce qu'elle a la France à y gagner? Parce que on parle beaucoup de l'Australie, on parle beaucoup des changements climatiques ici. Il y a l'apport de cette technologie. Il y a un apport. Il y a peut-être un gain financier aussi. C'est un marché intéressant pour la France. Il est important d'être présent sur ce marché-là parce que si on comprend bien, l'Australie c'est un pays qui a énormément besoin de se développer de ce côté-là.
Oui, tout à fait. Et puis
Qui doit.
Et nos entreprises ne s'y sont pas trompées,
oui.
Puisque tous les grands groupes de l'énergie sont en Australie depuis longtemps. Le seul qui a mis un peu plus de temps à arriver, c'est EDF. Mais quand il est arrivé fort, puisque
ils ont acheté pas mal de choses.
Exactement. Là, ils sont déjà une quarantaine de personnes, alors que ça a été lancé il y a un an et demi en Australie. Donc voilà, tout ce qui est Engie, tout ce qui est Total, ils sont là depuis longtemps en Australie.
Excuse-moi de vous interrompre. Et aussi tous les plus petits acteurs, parce que c'est aussi ce qui est intéressant. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que oui, Engie, EDF, on les connaît, mais il y a tellement de petits acteurs entre guillemets sur la scène, mais qui sont là et qui font bouger la chose, qui font bouger le curseur.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, nous, c'est une passion hein, de Facette, c'est l'innovation. On a un espace de 140 mètres carrés sur le campus de Swinburne à Hawthorne qui est dédié à l'accueil des entrepreneurs français de la green tech ou australiens qui voudraient regarder la France. Et là, on est vraiment sur un niveau start-up parce que la transition énergétique, c'est à la fois les grands, mais c'est aussi des solutions innovantes qui peuvent faire face aux problèmes dont on parlait juste avant, tout ce qui est manque de main-d'œuvre, opérations en territoire off-grid, reculé, manque de talent et besoin d'automatisation. Et donc, c'est vraiment important qu'il y ait tout cet écosystème qui travaille ensemble. Et pour nous, on développe vraiment des programmes à cet effet, également avec les grands groupes, parce que notre vision, c'est qu'un grand groupe, en fait, elle peut avoir intérêt à adopter une start-up sur sa chaîne de valeur pour faire face justement à ces défis et les intégrer et les amener plus vite dans le paysage que si la start-up, elle doit passer très longtemps à chercher de l'investissement pour grossir.
Est-ce que ça, c'est pas une particularité australienne aussi, donner l'opportunité, donner la chance à certains plus petits parce qu'on croit en un certain projet? En France, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, ou alors ça fait longtemps que je suis parti, hein,
mais
ça reste encore un petit peu compliqué, non?
C'est une
en
question qu'on a souvent. Et en fait, ce qui va vous étonner, moi, je vais vous dire, on trouve que l'Australie, il y a une difficulté à dérisquer. Au contraire, c'est plutôt un marché qui est prudent.
D'accord.
Alors, par contre, au niveau individuel, on sent beaucoup plus de confiance. Les entrepreneurs se sentent beaucoup plus confiants dans la tenue de leurs activités. Mais les grands groupes ont énormément de mal à faire ce que les Français, on sait déjà faire, c'est-à-dire prendre des risques. Et c'est là où nous, on voit une vraie fenêtre d'opportunité. Parce que les Australiens, grâce à cette confiance justement, ils ont plein d'entrepreneurs dans la green tech, mais leur boîte, elle reste au niveau de l'acide et elles ont besoin d'aller chercher de l'investissement à l'étranger pour vraiment grossir. Alors que nous, les Français, on n'est pas trop mauvais pour justement dire ok, on n'a pas beaucoup de moyens, mais voilà, trois cailloux de chips et puis
on n'a pas de pétrole, mais on a des idées.
On n'a pas de pétrole, mais on a des idées, exactement. Et du coup, en fait, je pense que cette mentalité française d'entreprendre et cette capacité que nos grands groupes ont justement de tester des choses directement sur des projets, on va essayer d'amener les Australiens dessus et de faire en sorte que cet écosystème qui est vraiment incroyable en Australie, avec plein d'entrepreneurs qui ont plein d'idées, mais qui ne savent pas comment faire sur cette espèce de vallée de la mort, hein, entre le moment où tu as l'idée, où tu as le concept et le moment où ça passe à l'échelle industrielle. Et ben c'est là où justement la complémentarité, elle est super intéressante.
C'est le meilleur des deux mondes, tout ça.
En tout cas, on essaye.
et les projets, le futur de la Facette, vous dites c'est assez jeune, c'est quelque chose qui est là pour durer dans le temps. C'est quoi votre ligne directrice à vous? Si vous suivez celle émise par la France, la vôtre à vous, elle est où dans un an, dans deux ans, dans cinq ans?
Alors nous, on a quatre ans pour monter le projet. Là, on a déjà fini l'année 1. Donc, en année 1, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a des activités à la fois dans l'innovation, dans les startups, à la fois dans la recherche appliquée et à la fois dans l'éducation. Maintenant, on ne peut pas tout développer au même rythme. Donc, l'an dernier, on a beaucoup travaillé.
Il faut marcher avant de courir. Hein.
Exactement. L'an dernier, on a beaucoup travaillé sur la partie recherche appliquée. Et donc, on a lancé notamment 4 projets avec des entreprises et des universités qui travaillent ensemble pour innover dans des secteurs clés. Donc, nouveaux carburants et réseaux électriques pour l'an dernier. Cette année, on travaille beaucoup la dimension start-up avec cet espace qu'on a ouvert, qu'on a complètement rénové grâce à l'aide de Swinburne, qui est basé dans le Victoria, qui va nous permettre de développer des services. Et puis, je dirais qu'en année 3 et 4, on va regarder ce qu'on peut faire dans l'éducation et comment on fait en sorte que les compétences soient disponibles pour les nouveaux projets industriels qu'on est en train de créer. Donc c'est un peu ça la ligne sur 4 ans, à savoir aussi qu'il faut qu'on devienne indépendant financièrement parlant. Donc on cherche toujours du co-investissement et à faire grossir cette enveloppe au fur et à mesure des années.
L'IA dans tout ça, c'est très certainement, vous allez me dire, c'est une énorme opportunité pour vous, pour les chercheurs, pour la recherche, pour l'investissement, pour tout ça. Mais concrètement, pour vous, c'est comment on se place et se projeter sur quelque chose qui on ne sait pas où on en sera dans 2 ans, dans 3 ans, sur l'évolution de l'IA. Est-ce que ça peut apporter dans le volume de recherche, donc du coup, l'importance d'être attelé à une université, par exemple?
Exactement. L'IA, c'est au cœur de ce qu'on fait. C'est d'ailleurs pour ça que côté français, outre le CEA, on a choisi l'université Grenoble-Alpes, qui a le centre MIAI, c'est un grand centre européen sur l'intelligence artificielle et qui vient amener ses compétences et cette compétence française dans l'IA qu'on a aujourd'hui pour l'articuler sur les secteurs énergie. Donc là, cette année notamment, on a lancé un programme sur les smart green avec l'université d'Adélaïde, l'IRL Crossing, le laboratoire du CNRS et l'université Grenoble-Alpes et le CEA pour voir comment on va intégrer en fait l'IA et tout ce qui est machine learning au comportement des usagers pour faire en sorte que quand on innove un réseau électrique, on n'oublie pas cette partie-là également. Mais ça touche tout un tas d'autres sujets. Mais on est déjà dessus et on continuera de l'être.
Et ça, c'est très intéressant parce que si on réfléchit, ça permet de pas arriver avec ses gros sabots sur une grille qui se dit on pense que les gens vont consommer. Non, on arrive à faire des modèles qui sont très 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 proches de la réalité. Et ça, c'est par le biais de l'IA.
De toute façon, si les usagers n'adoptent pas les solutions, on peut avoir la meilleure technologie. Et en fait, on voit, et il y a des cas au Royaume-Uni notamment, où ils se sont rendus compte que pas d'adoption de la part de la société, ça voulait dire que finalement, la solution servait à rien.
Il y a un cas qui s'appelle le Concorde, comme ça.
Voilà.
Merci d'être passé nous voir. Vous êtes toujours la bienvenue, la facette toujours la bienvenue. Et puis, bien entendu, si vous avez quoi que ce soit comme projet à nous parler, vous êtes une nouvelle fois la bienvenue. Merci.
Merci beaucoup.
Vous écoutez Le Français sur Radio SBS.
On en parlait en début d'émission, on vous propose de découvrir un nouveau reportage de notre radio partenaire RFI. On part cette fois-ci dans l'Est de la France, où l'université de Metz dispense des cours de management et de commerce international à des étudiants ukrainiens, une formation unique en France pour les aider à reconstruire leur pays à l'issue de la guerre.
Bonjour à tous, donc aujourd'hui on a continué le projet sur le cours de...
C'est l'un des derniers cours du semestre pour les étudiants du diplôme franco-ukrainien Management et Commerce International de l'Institut d'administration des entreprises de Metz. Une formation créée en 2022 suite à l'invasion de l'Ukraine, comme l'explique Julien Husson, directeur de l'Institut.
Alors, l'idée est venue d'une de nos anciennes étudiantes, Violetta Moscalo, qui a vu l'opportunité de créer un diplôme pour faire venir des étudiants d'Ukraine avec un statut de réfugié.
À l'époque doctorante en sciences de gestion à Metz, l'Ukrainienne Violetta Moscalou est devenue la responsable pédagogique de la formation.
Nous avons pu lancer un espace record en 2 mois, un programme de niveau Bac+3 qui permet de former tous les ans une trentaine de diplômés. Et donc l'objectif, c'est de former des managers parce que la guerre va s'arrêter à un moment donné et les chantiers de reconstruction vont être très importants et il y aura besoin des managers capables de travailler dans un milieu franco-ukrainien.
Entre deux cours, des étudiantes ukrainiennes se retrouvent à la cafétéria. Violetta Chenkaryuk, 23 ans, fait partie de l'actuelle promotion. Originaire de Tchernitsy, à l'ouest de l'Ukraine, elle est arrivée à Metz en juillet dernier, un master en langue étrangère en poche, mais sans parler un mot de français.
Nous avons beaucoup de cours en gestion de projet, en marketing, en finance, beaucoup d'heures de français. Maintenant, je vais essayer de trouver un stage et après, dans quelques années, peut-être je vais retourner en Ukraine, si c'est possible.
Une centaine d'étudiants a déjà achevé la formation. Parmi eux, les deux tiers ont poursuivi leurs études en master en France et un tiers a trouvé un emploi ou créé son entreprise, comme Tetiana Poorena, 26 ans.
C'est Boutique Solidaire Kvitka, dont je suis très fière. Dans notre boutique, les gens peuvent trouver des chemises brodées ukrainiennes traditionnelles, sucreries, du miel, des souvenirs. Mon but est de faire découvrir notre culture parce que l'Ukraine est incroyablement riche culturellement.
Comme elle, 80% des Ukrainiens bénéficiaires de la formation sont des femmes, car il est presque impossible pour les hommes de plus de 18 ans de quitter l'Ukraine en raison de la mobilisation mise en place après l'invasion russe. Face à son succès, la formation initialement prévue pour une durée de 3 ans va être prolongée pour au moins 3 années supplémentaires. La prochaine rentrée est prévue en octobre 2025. Vilouane Munoz-Boileau, Metz, RFI.
Il est 13h56 dans votre programme en français. C'est l'heure du rappel des titres de ce mardi 1er avril 2025. Marine Le Pen condamnée à 5 ans d'inéligibilité en France pour détournement de fonds publics. La chef de file du parti d'extrême droite Rassemblement National a été reconnue coupable dans l'affaire des assistants parlementaires qui visaient son parti. Elle annonce vouloir faire appel pour briguer la présidence du pays en 2027. Les chances de retrouver des survivants se réduisent en Birmanie et en Thaïlande après le violent tremblement de terre de vendredi. Le bilan provisoire fait état de plus de 2000 morts en Birmanie. Deux Français font partie des victimes. Et puis en Australie, la campagne pour les élections législatives fédérales se poursuit. Le Premier ministre Anthony Albanese est à Adélaïde ce mardi pour multiplier les annonces dans le secteur de la santé. C'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet sbs.com.au/french et sur toutes les plateformes de podcast. J'ai été très heureux de passer cette heure en votre compagnie. Votre prochain rendez-vous avec le programme en français sur Radio SBS, ce sera jeudi, même fréquence, même heure. On se quitte en musique sur ce titre de Pascal Obispo, Lucie. Bon après-midi sur les ondes d'SBS Radio.
Jamais baisser les bras, je sais, c'est pas le remède à tout. Mais faut se forcer parfois. Lucie, Lucie, dépêche-toi. On vit, on ne meurt qu'une fois. Et on a le temps de rien.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.